Quelle joie de faire partie de cette famille d'églises extraordinaire qui a à cœur non seulement Longueuil, mais chaque ville, chaque village du Québec et la francophonie. Ce matin, c'est une journée, c'est un moment de célébration que nous vivons ensemble. Un jour de joie, un jour de fête où nous célébrons sept personnes. Il y en avait trois à la première réunion, quatre à la deuxième réunion. Sept personnes qui ont pris cette décision de vivre pour Jésus et de se faire baptiser, de démontrer publiquement leur foi et leur amour pour Jésus. Je suis si fier d'eux et nous allons vivre ensemble un moment extraordinaire. J'espère que vous êtes prêts à vivre tout ça. Quand on parle de baptême d'eau biblique, on parle de baptême d'eau par immersion. Donc, dans la Bible, dans les évangiles, on voit que ceux qui étaient baptisés étaient complètement immergés dans l'eau. Et on voit aussi que les mots grecs, baptizo et bapto, qui sont les mots utilisés pour baptême, nous parlent de plonger, de submerger. C'est le mot aussi qui était utilisé lorsqu'on voulait teindre un tissu. Donc, on prenait un tissu et on le plongeait dans une teinture. Et lorsqu'on ressortait le tissu, il était d'une couleur complètement différente. Et lors du dernier baptême, grâce à mon acolyte accessoiriste Francis, j'avais un petit bocal comme ça avec de l'eau, avec du colorant bleu dedans. J'ai trempé un morceau de vêtement dedans. Et lorsque je l'ai sorti, le vêtement était devenu bleu. Et non seulement le vêtement était devenu bleu, mais mes mains aussi sont devenues bleues pendant plusieurs journées. Et je me promenais partout avec des mains bleues. J'étais super beau. J'étais vraiment... j'ai parti une mode. Dans Drummondville, si tu vois du monde avec des mains bleues, là, ça vient de moi. Donc, ce matin, j'ai décidé de ne pas le faire, mais vous comprenez l'image. C'est qu'au début, si le morceau de vêtement est blanc, on tremble dans la teinture, il est complètement différent lorsqu'il est submergé et imbibé. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On explique qu'il y a un avant et un après le baptême d'eau. Il y a un avant et il y a un après lorsqu'on rencontre Jésus et qu'on l'invite à venir dans notre vie. Le mot aussi « baptizo » était utilisé lorsqu'il y avait des naufrages, lorsqu'un bateau faisait naufrage. Donc, inquiétez-vous pas, on va vous sortir de l'eau, vous ne resterez pas en dessous de l'eau ici. Mais ça explique quand même la notion de submersion, d'immersion, qui est vraiment importante. Le baptême d'eau dans la Bible, c'est un commandement et lorsqu'on se fait baptiser, on le fait par obéissance à Jésus. Vous connaissez ce texte dans Matthieu 28, 18 qui dit « Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous invite, nous demande que lorsque nous venons à lui, que nous plaçons notre foi en lui, de nous faire baptiser. Lorsqu'on fait ça, c'est un geste d'obéissance. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et c'est notre appel, et c'est l'appel de chaque croyant de se faire baptiser, de passer par les eaux du baptême. Vous savez, la vie chrétienne, de devenir chrétien, c'est une décision qui est à la base personnelle, qui est intime, qui est privée, qui est secrète. Mais la vie chrétienne, telle qu'on la connaît dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une décision qui est personnelle, mais c'est aussi un geste qui est public. C'est une vie publique où on s'affiche clairement, ouvertement, sans gêne, « J'appartiens à Jésus. » Je suis chrétien. Et quand on se fait baptiser comme ça, il y a un certain stress qui vient avec ça. Il y a peut-être une nervosité d'être devant les gens, mais c'est important de le faire parce que quand on le fait, on dit à tous, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis fier d'être chrétien. Regardez, j'obéis à la parole de Dieu. Je me fais baptiser aujourd'hui. On voit aussi dans la parole de Dieu que ceux qui se faisaient baptiser n'avaient pas besoin d'être parfait ou d'être complètement transformé, on pouvait se faire baptiser dès le jour 1 de notre vie chrétienne dans la Bible. La seule exigence est de recevoir Jésus dans sa vie, de confesser ses péchés, de se repentir de ses péchés, et par la suite, on pouvait se faire baptiser. Comme on le voit ici dans notre texte, dans Acte 2, c'est Pierre qui s'adresse à une foule non-croyante lors de la Pentecôte. Et voici ce qui se passe dans ce texte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Ils ont été touchés par le message de Pierre. Pierre leur dit, « Changez d'attitude ou encore repentez-vous. » Comme on va voir dans un instant, on va développer un peu plus sur ce thème-là. « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera jusqu'à Drummondville en 2023. C'est écrit ça dans votre Bible, vous autres? OK, moi, c'est écrit ça, je ne sais pas. Verset 40. « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ici, on a une page d'histoire sur la première journée officielle de l'Église, telle qu'on la connaît. La Pentecôte, Saint-Esprit qui touche les gens, Pierre prêche. Et savez-vous que lors de la première journée de l'Église, lors de la première réunion, si on veut, d'Église ever de tous les temps, c'était un baptême d'eau. 3000 baptisés. Ça devait être quelque chose. Imaginez les disciples qui sont là, sont cachés dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit, Pierre prêche, et là, ils vont se mettre à baptiser 3000 personnes. Donc, j'espère qu'ils sont en forme cette journée-là. Hein, pas besoin d'aller au gym, pas besoin d'aller au cardio, je sais pas quoi. Et parce que là, 3000 personnes qu'on baptise, un après l'autre, parce que les gens étaient touchés, vivement touchés, et ils voulaient suivre Jésus. Donc, le baptême d'eau, ça peut se passer au début de notre vie chrétienne. C'est aussi un symbole qui est extrêmement puissant, le baptême d'eau. Colossiens 2,8 nous dit ceci, un peu une parenthèse avant d'aller au symbole, ça dit ceci, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Et je fais cette parenthèse aujourd'hui. Si on se fait baptiser ici, on vient déclarer publiquement qu'on appartient à Jésus, c'est parce qu'on a découvert la spiritualité qui est authentique. Combien ici vous aimez ce qui est vrai? Vous aimez ce qui est authentique? Il n'y a rien de pire que ce qui est non authentique. Et en ce moment, on vit dans un monde où il existe toutes sortes de courants, de modes, de façons de penser, de phrases clichés, et des façons de penser sans fondement de religion où on lance des choses dans l'univers, où on se connecte aux éléments de la nature, où on remercie la vie, où on invoque des divinités, où on place sa confiance dans les astres et dans les différentes phases de la lune et où on pratique toutes sortes de méditations. Et j'aimerais vous dire, comme le texte nous dit aujourd'hui, attention, attention, vous allez être déçus par ces choses-là. Vous allez être déçus. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et authentique que Jésus-Christ. Il est l'authentique. Il est celui qui peut combler ton cœur comme rien dans ce monde peut combler ton cœur. Aucune drogue, aucun alcool, aucune relation, aucune religion, aucune divinité ou façon de faire ne peut combler ton âme comme Jésus peut combler ton âme. Il est l'authentique. Rien ne le surpasse. Il n'est pas un Dieu, il est le seul Dieu. J'aime ce qui est authentique. J'aime ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui sont fans de côte levée? Laissez-moi voir vos mains. Ouais, encore notre technicien qui lève sa main aux deux réunions. Fidèle. Fidèle Simon. Des bonnes côtes levées, c'est dur à battre. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que des pas bonnes côtes levées? C'est vraiment pas agréable. Ça me rappelle un jour où j'ai cuisiné mes premières côtes levées et je les ai complètement manquées, mais vraiment, vraiment complètement manquées. J'avais un ami qui était chez moi et il était là avec sa femme et il était comme poli, genre « Ah, c'est bon, hein? » Moi, je savais que c'était pas bon. Et l'autre fois aussi, je suis allé au resto et tu manges ça, puis ça arrive, c'est comme une promesse de bonheur qui arrive dans l'assiette reluisante de sauce barbecue. Tout ton être est en ébullition, en extase, à l'idée de consommer ces bouts de côte levée. Désolé pour mes végétariens dans ce lieu. Et là, tu arrives pour manger ça, tu salives, c'est comme un moment spécial. Et là, tu croques dans de quoi de dur puis de sec, avec une sauce qui n'est pas sucrée, qui n'est pas piquante, qui n'est pas rien pantoute. Je te dis que c'est pas le fun. Je te dis que c'est décevant, mais vraiment décevant. Parce qu'on sait qu'il existe le summum de la côte levée. Et d'ailleurs, allez voir Simon à la fin pour avoir sa recette. Moi, elle m'intéresse vraiment sa recette. Je veux dire ça pourquoi aujourd'hui, ne te contente pas de ce qui est médiocre, de ce qui est ordinaire, de ce qui ne comble pas le cœur. Tu as besoin de l'authentique. Tu as besoin de ce qui est vrai. Tu as besoin, ne te laisse pas berner par des petites pensées pseudo-religieuses. Tu as besoin de Jésus. Il est l'authentique. Rien ne l'accote. Rien ne s'approche de sa magnificence, de sa bonté. Et quand on se fait baptiser, on vient dire, moi, là, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert Jésus, puis je viens le dire publiquement, rien n'égale Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Rien n'égale Jésus. Oh, on peut applaudir. On peut applaudir le Seigneur. Le baptême d'eau, c'est un symbole puissant de ce qui se passe en dedans. Regardez au verset 12 de Colossiens 2. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Quand on se fait baptiser, on vient dire « Je m'associe à Jésus-Christ. Je m'associe à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. » On est aussi en train de dire « Je viens et je symbolise par ce baptême ce qui a pris place en moi. Avant, j'étais mort, sans espoir, mort en dedans, vide. Mais maintenant, je vis une vie nouvelle parce que Jésus habite en moi, parce qu'il m'a pardonné mes péchés, parce qu'il m'a transformé, il m'a donné l'espoir. Est-ce que je peux entendre amen? C'est ce qu'on dit quand on se fait baptiser. On explique, on exprime par un geste ce qui s'est passé dans notre cœur. Ce matin, c'est bien beau parler de baptême, mais aimeriez-vous ça voir des baptêmes aujourd'hui? Célébrer des baptêmes aujourd'hui? Wouh! J'ai invité les musiciens à s'approcher et on va avoir, on a 4 baptisés aujourd'hui, vraiment bénis d'avoir ces 4 précieuses personnes qui vont se faire baptiser. Et la première personne, comment ça va fonctionner, c'est que je vais lire le témoignage et par la suite, on va voir le baptême et on va pouvoir applaudir et célébrer ensemble. Et le premier à se lancer aujourd'hui est Tristan. Je vais t'inviter à t'approcher. Tristan, Eric va s'occuper de toi. Et je vais lire son témoignage qu'il a écrit. Tristan est un ado de 13 ans qui a rencontré Jésus en même temps que sa mère en 2019. Ensemble, ils priaient le soir avant de s'endormir. Tristan vivait beaucoup de problèmes d'intimidation à l'école et la prière l'apaisait. Un jour, il est venu à l'église Nouvelle Vie. Il a rencontré les pasteurs et les bénévoles qui servaient dans cette église. Il a beaucoup aimé les soirées NVA, les soirées pour ados. Il était comblé dans ce nouveau chapitre de sa vie chrétienne. Tristan est allé à la conférence pour ados Reset. Cette fin de semaine a été pour lui un événement majeur dans sa vie d'ado. Lors d'une activité, les jeunes étaient invités à prendre la parole devant les autres. Tristan se sentit interpellé. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il savait seulement qu'il devait monter sur scène et aller prier. Il a senti un feu le remplir. Les mots sortaient seuls de sa bouche. Il se sentait rempli. Lorsqu'il est retourné à sa place, les larmes coulaient et il sentait une chaleur en lui. Cette expérience a été un moment gravé sur son cœur. Tristan veut revivre d'autres camps d'ados. Il veut être encore bien entouré. Tristan sait qu'il a des combats à livrer, mais Dieu est son rocher et sa forteresse. Il continuera à prier et à persévérer. Aujourd'hui, Tristan veut se faire baptiser, car il croit et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie devant tous. C'est une déclaration d'un chevalier à son roi. Jésus règne sur ma vie. Pour nos prochains 3 baptêmes, c'est une famille, 3 membres de la même famille qu'on va baptiser. Et je vais commencer par lire le témoignage de Raphaël. Et par la suite, il va avoir une courte entrevue avec ses parents ainsi que je vais avec qui on va avoir cette entrevue-là. Donc, je commence par le témoignage de Raphaël. Ces dernières années, Raphaël a vécu une période où il se sentait très seul à son école secondaire. Il avait beau essayer de socialiser, il n'arrivait pas à se faire de vrais amis, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il remarquait que sa génération était composée de personnes centrées sur elles-mêmes, sur leur téléphone, et que l'intimidation était omniprésente. Heureusement, il retrouvait quelques amis à ses pratiques de tennis tous les après-midi de la semaine. Raphaël grandit dans une famille catholique, mais non pratiquante. Après sa confirmation, il n'est pas retourné à l'église. Dans la dernière année, Raphaël a fait la connaissance de nouveaux joueurs dans son programme de tennis. Ils sont rapidement devenus amis et ont passé des heures à s'entraîner ensemble. C'est grâce à cet ami précieux que Raphaël a été invité à une soirée NV ado. Il n'a pas hésité à répondre à cette invitation car il aimait bien les valeurs chrétiennes exprimées par son ami. Le dimanche suivant, il s'est présenté à une réunion hebdomadaire de l'Église Nouvelle Vie de Drummondville et il a assisté à plusieurs baptêmes. Parmi les baptisés, il a rencontré une personne très significative pour lui qui l'a aidé plus tard lorsqu'il avait des doutes sur sa démarche de foi. C'est lors de cette réunion spéciale que Raphaël a fait la rencontre de Dieu, ce nouvel ami sur qui il pourrait compter. Il a donné à Dieu sa pleine confiance et a décidé de remettre sa destinée entre ses mains. Depuis cette renaissance, Raphaël contrôle mieux ses émotions, en particulier sur un terrain de tennis où il est très compétitif. Il est plus respectueux, il lui arrive maintenant spontanément de demander pardon s'il s'emporte et que ses paroles ou ses agissements sont contraires à ses valeurs chrétiennes. Il lit maintenant la Bible régulièrement et tente de devenir une meilleure personne en se référant aux valeurs qui y sont transmises. Il a compris que si des personnes le dénigrent ou se moquent de lui parce qu'il est chrétien, la meilleure chose à faire est de prier pour qu'un changement comme le sien s'opère dans leur vie. Aujourd'hui, Raphaël veut se faire baptiser pour démontrer sa volonté de devenir quelqu'un de meilleur et s'engager à 100% dans sa relation avec Dieu. Il veut démontrer publiquement qu'il accepte l'amour de Jésus et de Dieu le Père dans son cœur et lui donne sa pleine confiance. Dans un instant, il va être baptisé. On va baptiser les trois un après l'autre pour qu'il puisse voir et vivre ce moment-là aussi en famille. Donc, il reste assis là pour l'instant. Je vais maintenant inviter Lina et Richard à s'approcher de moi, s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'être ici, d'avoir accepté de faire cette courte entrevue aujourd'hui pour nous parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. Pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, sans aller dans tous les détails de votre vie, mais parlez-nous un peu de vous avant de connaître Jésus. Ça ressemblait à quoi, votre vie?
Moi, dans l'enfance, j'ai fréquenté l'Église catholique par le biais des parents de ma meilleure amie. On allait à tous les dimanches. Mais par la suite, j'ai une maman qui souffre de troubles psychiatriques. Mmh. Et ça m'a éloignée. De la religion. Au cours des dernières années, mes enfants ont subi plusieurs épreuves et disons que ça m'a beaucoup affectée, ça m'a vraiment affectée. Mm-hmm. Je me sentais brisée, j'ai commencé à faire de l'anxiété, de l'insomnie. Mm-hmm. Donc, c'est ça.
D'accord. Pour moi, moi aussi, j'ai grandi avec des parents qui étaient des catholiques pratiquants. J'ai eu à cœur de faire vivre les sacrements de l'Église catholique à tous nos enfants. Mais malgré ça, je ne fréquentais pas très rarement l'Église parce que je n'arrivais pas à y connecter avec Dieu. Puis je ne priais pas souvent non plus. Puis comme Lina l'a dit, ces dernières années, on a eu plusieurs difficultés familiales à surmonter, à affronter. Et puis, sans trop m'en rendre compte, je devenais de plus en plus pessimiste puis je commençais vraiment à manquer d'espoir vers des jours meilleurs, tellement j'avais l'impression qu'un problème n'attendait pas l'autre.
Ouais. Comment s'est faite votre démarche spirituelle, votre rencontre avec Jésus, l'Église? Expliquez-moi un peu tout ça.
Il y a eu plusieurs événements, mais les plus marquants ont été notre fils Raphaël qui a reçu une invitation de l'ami dont il a parlé dans son témoignage de venir à l'Église Nouvelle Vie. Donc, Raphaël me fait part de ça. Ça m'a agréablement surpris. Mmh. Ça m'a intriguée. Et puis, dans la même période, j'ai reçu une invitation. Je vais la nommer. Elle est là, Annie-Claude, à venir, à une nouvelle vie. Et puis, on a décidé de venir. Et c'est pendant une prêche que... j'ai triché, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que mon fils Raphaël levait la main bien haut pour accueillir Jésus dans sa vie. Puis ça, ça m'a rempli d'émotions puis de fierté. Puis c'est comme si ça m'a, clairement dit qu'est-ce que je devais faire. J'ai levé ma main.
Wow, super. Merci Seigneur.
Pour moi, c'est ça, comme Nina l'a dit, c'est Francis et Annie-Claude qui ça faisait quelques fois qu'ils nous en parlaient, puis quand on s'est décidé enfin à venir sur la fin de l'automne dernier, dès la première réunion, là, j'ai vraiment été impressionné par le dynamisme et l'implication de l'Église Nouvelle Vie dans la communauté ici au Québec, mais même ailleurs dans le monde. Je me suis dit, waouh, vraiment, Dieu agit dans ces personnes-là. Puis pendant les chants de louange, je suis devenu comme submergé d'émotions. J'en avais des frissons à répétition. Puis c'était la première fois de ma vie où je me sentais vraiment, je me suis senti vraiment près de Jésus.
Wow, extraordinaire. C'est génial. C'est vraiment super de vous entendre, de nous raconter votre quelques bouts de votre parcours comme ça. Qu'est-ce qui a changé après avoir découvert Jésus dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie?
Moi, de mon côté, l'anxiété s'est estompée. J'ai changé certaines habitudes pour faire place à la prière. Puis, je fais confiance à Dieu. Je suis reconnaissante parce que c'est comme si il avait mis tout en place pour me ramener à lui.
Ouais.
C'est comme si j'avais retrouvé une paix intérieure.
Wow! Merci. Yes!
Moi, ben, j'ai retrouvé le courage pour affronter nos difficultés familiales puis pour un peu relativiser tout ça. Je vis mon quotidien avec plus d'optimisme et d'espoir. Et puis, je loue notre Dieu créateur régulièrement pour avoir mis tant de magnifiques personnes et de belles choses dans ma vie. Je prie aussi régulièrement pour notre famille, pour des amis, pour plein de personnes.
Extraordinaire. Pourquoi vous faites baptiser aujourd'hui?
Ben moi, c'est pour... démontrer que Dieu a changé ma vie. C'est aussi pour me libérer du passé. Puis c'est aussi un symbole d'un nouveau départ avec Dieu comme guide.
Exact. Yes. Super.
Puis moi, ben, c'est pour témoigner de ma foi dans le don et la promesse de Jésus vers une vie meilleure. Puis pour officialiser mon engagement de chrétien devant les membres de l'Église Nouvelle Vie.
Un immense merci, félicitations. Vous pouvez maintenant descendre. Et on va commencer avec Raphaël. Tu peux aller dans l'eau. Pendant qu'on prend une toute dernière photo, on pourra prendre d'autres photos après. Je vous invite à prendre place. On va pouvoir, à la fin de la réunion, les accueillir et les célébrer encore une fois. C'est tellement touchant d'entendre ces témoignages, de lire ces témoignages. Et ce matin, avant qu'on arrive à la fin de la réunion, qu'on les félicite, on a aussi un mousseux non alcoolisé aussi pour tout le monde à la fin, pour célébrer ce moment-là ensemble. J'avais à cœur de vous partager quelque chose aujourd'hui. Alors qu'on parle de baptême d'eau, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit que le mot baptême d'eau est souvent, très souvent, associé à la repentance. Un mot bien impopulaire peut-être, mais un mot extrêmement important dans le cheminement chrétien, qu'on soit nouvellement chrétien ou qu'on soit un ancien, un vieux de la vieille. le baptême de repentance. Si on regarde ensemble dans Marc 1, verset 4, ça dit ceci. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et Actes 19, 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire le Messie. Et lorsqu'on se fait baptiser, on exprime clairement qu'on appartient à Jésus, mais c'est aussi toujours relié à la repentance. Si on regarde bibliquement, c'est quoi la repentance? C'est un changement de mentalité et d'intention. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses propres péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est un changement de comportement, c'est un mouvement vers Dieu et c'est un changement de vie complète. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration, une journée de vie, mais j'aimerais aussi te proposer en quelques minutes que non seulement on veut célébrer ce que Dieu fait, mais on veut prendre le temps aujourd'hui afin de faire une introspection personnelle, de voir comment je vais comme personne, comment je vais moi en tant que chrétien. Est-ce que je vis encore fidèlement pour Jésus ou est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de marcher sur le chemin de la repentance à nouveau? Dans 2 Corinthiens 7, ça dit ceci, « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Et en tant que croyant, la repentance n'est pas quelque chose qu'on fait seulement au début de notre vie chrétienne où on demande pardon à nos péchés, mais la repentance devrait faire partie d'un mode de vie. C'est-à-dire régulièrement, on s'arrête et on dit « OK, comment est-ce que je vais? J'en suis où avec Jésus? Est-ce qu'il y a des aspects de ma vie qui ont besoin d'être transformés, qui ont besoin d'être changés, d'être réglés, d'être pardonnés? » Êtes-vous là ce matin? Le verset 8 dit ceci, « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Ici, je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Votre tristesse vous a amené à la repentance. » Et ici, c'est 2 Corinthiens. Et dans cette lettre, Paul va faire des reproches, des réprimandes, des rappels aux gens de cette église. Peut-être que certaines paroles ont été assez dures. Certaines personnes, lorsqu'ils ont lu ces paroles-là, ont été attristées, la Bible nous dit. Ah, ça les a touchés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils agissaient mal devant Dieu. Mais Paul ici va dire qu'il se réjouit de cette tristesse-là parce que cette tristesse-là dans le cœur amène ces gens à la repentance. Et la repentance et l'humilité, c'est ce qui nous amène proche de Dieu, proche de Jésus. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans repentance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans humilité. Il faut courber la tête et fléchir le genou devant ce Dieu extraordinaire si on veut accéder à lui. Verset suivant nous dit ceci, « Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis qu'une tristesse du monde produit la mort. » Et moi aujourd'hui, ce que je prie dans cette courte exhortation ce matin, ce midi, je prie que le Seigneur nous touche, nous parle et qu'on puisse se réengager dans un chemin où on est prêt à se repentir. On est prêt à veiller sur notre cœur, où nous en sommes avec Dieu. La Bible va dire ici que lorsqu'on est attristé selon Dieu, on ne subit aucun dommage, mais que ça produit la repentance qui mène au salut, qui mène à la vie. Et je te pose la question aujourd'hui, réponds dans ton cœur, comment tu vas? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui souillent ton corps et ton esprit? Où en es-tu dans ta poursuite de la sainteté, dans la crainte de Dieu? Il faut faire attention à ce piège de la vie chrétienne où, au début de la vie chrétienne, on se repent, on donne notre cœur à Jésus, puis après ça, on oublie la repentance. C'est-à-dire qu'on vit notre vie chrétienne, et comme si rien n'était, sans jamais s'examiner, sans jamais voir si quelque chose a changé dans notre vie. Certains me diront, ouais, moi, ça fait 17 ans que je suis chrétien. Pas besoin de changer rien. J'ai tout compris ça, moi, ces affaires-là. Wow! Ça se peut qu'il y ait des choses encore à changer dans ta vie. Ça se peut que Jésus voudrait continuer une œuvre dans ta vie et dans ton cœur. Et le chemin de la sainteté n'est pas complété encore. Il faut que je fasse attention, hein? Comme de l'eau, là. Où en es-tu? C'est l'heure de faire le ménage. C'est l'heure de faire une introspection personnelle. Est-ce que déjà dans ce lieu que ça vous arrive de faire un ménage de printemps? Laissez vraiment vos mains. OK. Beaucoup de monde quand même, c'est étonnant. Beaucoup de monde quand même font des ménages de printemps. Est-ce que je suis le seul à réaliser que parfois on accumule beaucoup de stock à la maison? Quand j'habitais à la Malbaie, on s'est fait construire une maison à Sainte-Irénée dans un autre village. Puis dans l'entre-deux, on a dû, la maison n'était pas encore prête pour qu'on l'habite, on a dû louer une maison quelques mois. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de stock quand j'ai dû prendre tout ce qu'on avait pour le mettre dans la maison de location, dans l'entre-deux. C'était incroyable et épouvantable. Et tout ça, de la faute de mes enfants. Il y en a donc bien du stock, ces enfants-là, des jouets. Non, pas des enfants, de la faute de leurs grands-parents. Qui, eux, achètent des affaires sans arrêt à nos enfants. Est-ce que je suis le seul pogné là-dedans? Merci. Merci. Je ne suis pas toute seule. On est deux au moins. On est solidaires. Et là, je me suis dit, OK, comment je fais pour me débarrasser de toutes ces affaires-là? Donc, j'ai fait le tour pièce par pièce de la maison, commencé à vendre des choses, jeter des choses, donner des choses. Et là, je remplissais ma voiture à ras-bord de toutes sortes d'affaires qu'on n'utilise pas pour aller les porter au sous-sol de l'église. Et là, j'ai fait plusieurs voyages. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, mais là, j'ai pas le choix. Je suis dans mon auto, il est plein à ras-bord d'affaires. Vous riez, mais peut-être que vous avez aussi beaucoup d'affaires chez vous qui ne servent à rien. Hein, le haut des armoires chez vous, là, ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien, toutes ces affaires-là. Oh oui, mais au cas où qu'un jour, j'ai besoin de l'assiette de Noël. Au cas où! Est-ce que tu l'utilises à Noël? Ah, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Oui pour certains, non pour d'autres. On a du stock, trop de stock. Et là, j'allais porter ça dans le sous-sol de l'église. Et quand on est déménagé de Sainte-Irénée à Drummondville, je me suis dit, j'ai déjà fait le gros ménage il y a quelques années. Je devrais être correct pour le déménagement. Savez-vous quoi? Je n'étais pas correct. J'avais encore besoin de faire du ménage. Et aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu as accumulé dans ta vie des mauvaises habitudes, des dépendances, des problèmes non réglés? Un manque de pardon, un péché qui s'est introduit dans ta vie tout doucement, que tu l'as laissé entrer dans ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est l'heure du grand ménage. C'est l'heure du ménage de printemps. C'est l'heure de dire, Seigneur, je t'aime, je veux vivre pour toi, je veux te suivre et je veux que ma vie te plaise. Donc ce matin, s'il y a des choses dans ma vie qui ne te plaisent pas, qui ne te plaisent pas, Seigneur, je me repens. Je te demande pardon. Je te les abandonne et je te demande de m'aider dans ce chemin de la sainteté. Est-ce que je peux entendre un amen? Je vais inviter les musiciens à venir sur le stage. Je vais lire les derniers versets de la matinée. Il y a un texte dans Hébreux 3:7 qui dit ceci. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Des gens ici ce matin, tu entends le message, puis en tant que chrétien habitué à l'Église, tu vas peut-être juste repartir puis faire comme si rien n'était. J'aimerais te dire ce matin, tu as entendu ce message, tu as entendu cette courte parole. S'il vous plaît, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu. Laisse-le te parler. Laisse-le te guider. Laisse-le te montrer ce qu'il voudrait que tu abandonnes pour lui, que tu laisses de côté pour lui. N'endurcis pas ton cœur devant le Seigneur aujourd'hui. Verset 12 nous dit ceci. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Et c'est ma prière ce matin, qu'on puisse faire attention, qu'on puisse veiller sur soi-même, qu'on puisse pas juste vivre la repentance au début de notre vie chrétienne, mais que ça fasse partie de notre marche chrétienne. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Examine-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'on puisse être des chrétiens qui marchons avec Dieu avec ce cœur prêt à obéir, ce cœur prêt à avancer, à relâcher, ce cœur qui plaît au Seigneur, ce cœur humble. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent à avoir un cœur comme ça? Lève ta main si tu aspires à avoir un cœur humble, un cœur qui se repent, un cœur qui se laisse toucher par l'Esprit de Dieu. Dernier verset de la matinée, dans Luc 15, verset 7, ça dit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et au ciel, ce qui provoque la joie au ciel avec les anges et tout, c'est une personne qui a un cœur humble et qui se repent. Ça, ça provoque de la joie au ciel. Quelqu'un qui dit, « Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, je t'aime et je te donne toute ma vie. Tous les détails de ma vie. Quand tu viens comme ça devant Dieu avec un cœur sincère, il y a la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Parce que c'est la seule façon qu'on peut se connecter à Dieu. C'est par un cœur humble qui est prêt à reconnaître ses torts, qui est prêt à placer sa vie devant Dieu, à examiner sa vie devant Dieu. On a vu plusieurs choses ce matin. On a vu des baptêmes magnifiques. On a vu que le baptême, c'est important que ce soit par immersion, que c'est un geste d'obéissance, que ça se fait au début de la vie chrétienne, que c'est un symbole puissant. Et ensuite, on a parlé de repentance. Et je vous ai invité à l'introspection. Puis en terminant ce matin, j'aurais deux invitations à faire, toutes simples, mais importantes. Et pour les faire, par respect pour chacun d'entre vous, je t'invite tout simplement à fermer tes yeux un instant, à te recueillir. C'est un moment solennel, un moment important. Tu peux faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Et alors que tu as penché ta tête, tu as fermé tes yeux, tu te recueilles devant Dieu, j'aurais une invitation à te lancer. Ma première invitation serait pour des gens qui, peut-être que tu es ici pour la première fois, ou ça fait quelques fois que tu viens, tu as entendu parler de Jésus, tu as vu ses baptêmes aujourd'hui, puis il y a quelque chose en toi qui est interpellé par ce qui prend place. Il y a quelque chose en toi qui est touché, interpellé par ce qui prend place ici, en ce moment, maintenant. Tu es comme touché. Et ce matin, je ne t'invite pas à faire un changement de religion. Je ne t'invite pas à signer quelque chose. On ne veut pas t'embarquer dans une affaire. Ce matin, ce que je t'invite, l'opportunité que je t'offre, c'est de faire la paix avec le Dieu Créateur Tout-Puissant. Faire la paix avec Jésus, de venir avec lui, devant lui simplement et humblement lui demander pardon pour tes péchés, tes erreurs et l'accueillir dans ta vie. C'est la plus belle chose que tu peux faire. C'est tout simple, mais ça change tout. Alors ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, la tête penchée, qu'on est en recueillement, si tu es dans ce lieu et que tu aimerais recevoir Jésus, tu ne connais pas tout. Tu as sûrement plein de questions puis c'est normal que tu aies plein de questions. Mais ce matin, si tu voudrais toi aussi recevoir ce Jésus que nous baptisions, duquel nos baptisés ont parlé ce matin, tu aimerais le vivre, tu aimerais vivre cette expérience personnellement avec Dieu, je vais t'inviter dans un instant simplement à lever ta main et à dire, « Moi, je veux recevoir Jésus ce matin. » Donc, si c'est toi, tu veux recevoir Jésus, tu veux que tu veux cette paix profonde intérieure, tu veux le pardon de tes péchés, lève ta main maintenant pour pour donner ta vie, ton cœur à Jésus. Il y a une main qui se lève, il y a deux mains qui se lèvent. Quand tu as levé ta main, tu peux la rebaisser par la suite. Il y a une troisième main qui se lève. Quatrième. L'important, c'est pas tant de lever ta main, mais surtout ce qui se passe dans ton cœur, la sincérité dans ton cœur. Parce que tu as levé la main, tu peux la rebaisser par la suite. On va prier ensemble dans un instant. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre voudrait aussi donner sa vie à Jésus ce matin? La simplicité de ce moment, on va prier ensemble. Il n'y a rien de bizarre ou compliqué qui va arriver. On va juste prier. Peut-être une dernière personne qui voudrait dire, moi aussi, je voudrais recevoir Jésus dans ma vie. Juste lever ta main maintenant, là, tu es à ta place. Merci. Merci pour les mains qui se lèvent encore. Dans un instant, je vais prier avec vous. Mon deuxième appel, mon deuxième invitation, c'est pour des gens dans ce lieu, pour des chrétiens. Tu as besoin de faire un ménage de printemps. Tu as besoin de venir devant Dieu, de sonder ton cœur et de dire, Seigneur, je veux conserver cette attitude qui te plaît, cette attitude d'humilité, de repentance. Et Seigneur, c'est quelque chose dans ma vie que je dois changer. C'est quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, Seigneur. Je te le donne. Je l'abandonne. Je te demande pardon. Que des chrétiens dans ce lieu qui veulent dire, moi, je veux marcher comme ça dans une vie de repentance, une vie de foi, une vie d'humilité. Lève ta main devant Dieu et dis, Seigneur, c'est moi. Je veux adopter ce style de vie dans ma vie. Je veux te plaire, je veux t'honorer. Moi, je suis le premier à lever ma main. Ce qu'on va faire ce matin en terminant, on va chanter un chant tous ensemble. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et alors qu'on va chanter ce chant, les paroles vont apparaître à l'écran. Et je t'invite à le chanter, mais comme une prière. À le chanter, mais avec sincérité. À le chanter, mais avec adoration. Et après qu'on ait chanté ce chant, on va terminer tous ensemble avec un dernier mot de prière. Mais chantez-le. Vivez ce moment avec Jésus ce matin. Vivez ce moment spirituel avec Dieu ce matin. Dieu est dans ce lieu. Il veut toucher ton cœur.